I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
C'est bien si c'est un son doux, rond, gentil ou intelligent ou drôle, mais dès que c'est un peu bas de plafond, ça m'irrite. Je m'appelle Emma Decaune, j'ai 43 ans, je mesure 1m57. J'ai commencé à faire du cinéma il y a 25 ans. Et oui, 25 ans, en tant que comédienne et puis en faisant un peu des courts-métrages, parce que ce que je voulais faire dans la vie, c'était réaliser des films.
Le musée des sons. Le musée des sons. Bonjour et bienvenue dans le musée des sons, le podcast mémoriel de Society, en partenariat avec le CELSA, un nouveau podcast qui fait beaucoup de bruit, mais pas n'importe lesquels.
Oui, parce que des bruits, des sons, il y en a partout, tout le temps. Des sons drôles, des sons graves, et parfois on n'y fait même plus attention. Mais ici, avec Ambre, on pense que chaque son, c'est une porte d'entrée vers une bonne histoire.
Exactement. Et c'est pour ça que l'interview qui va suivre ne peut exister que en podcast. On ne peut ni la lire, ni la montrer. Parce que les réponses, ici, ce sont des sons. Une fois par mois, un invité fouille pour nous dans sa mémoire auditive et nous fait écouter sa BO interne. Parce que la Madeleine de Proust, c'est un goût, mais c'est aussi un bruit.
Et la raison de ça, c'est que le son et la mémoire, ça se passe dans la même partie du cerveau, dans le cortex préfrontal médian. C'est pour ça que les morceaux de musique qui nous ont marqués sont souvent associés à des moments de nos vies. Un peu comme une BO mentale qui se lance quand on explore notre mémoire. Donc généralement, quand on se rappelle quelque chose, on a une image, mais on a aussi des sons.
Pour parler de tout ça, avec Flore, on a fait appel à une spécialiste. Quelqu'un qui peut nous parler de son et de cinéma, de musique et de voix de médias, qui a une mémoire auditive riche et une oreille baladeuse. Emma Decaune est actrice, réalisatrice, DJ. On l'a vue dans des films, mais aussi dans des clips. Et pendant des années, elle a parlé de musique à la télévision. Sa spécialité, c'est de raccorder le son et l'image.
Alors sans plus attendre, on entre dans sa tête en passant par les oreilles. Bienvenue dans le musée des sons d'Emma Decaune.
Mon problème dans la vie, c'est mon rapport au son. Parce qu'effectivement, je sais que mon berceau était posé sur les enceintes. Quand j'étais petite, je crois que mes parents vivaient vraiment dans un tout petit boui-boui. Et ils étaient très jeunes, ils avaient 22 et 23 ans. Et puis, ils étaient tous les deux fondus de musique, enfin mon père en particulier. Et du coup, j'ai un rapport au son qui est assez passionnel. Mais à une plus grande échelle, le son, ça peut être compliqué, par exemple, au restaurant. Parce que j'ai une espèce de... Je ne sais pas si on parle d'acuité en oreille aussi, ouais. Bah, c'est-à-dire que je peux complètement suivre la conversation des voisins, mais que je le veuille ou non. Enfin, ce n'est pas un truc de curiosité mal placée, c'est que j'ai comme des antennes, comme une éponge, quoi. Je ne sais pas, je bois, j'absorbe. Et je suis extrêmement curieuse des sons et de la musique, évidemment, en particulier. Et les sons de la ville, les sons de la nature, enfin, tout a une influence sur moi, sur mon humeur, sur mon état. Donc oui, je pense qu'on peut dire que je suis un tout petit peu sensible des oreilles, oui. J'ai rarement travaillé avec des acteurs qui n'étaient pas justes. Mais par contre, au théâtre, c'est une toute autre approche. Parce qu'au théâtre, il faut porter. Et quand il y a des choses de murmure ou des choses qui doivent être un peu dans l'émotion sensible, c'est très dur de porter en gardant cette émotion-là. Enfin, c'est vraiment une autre technique. Et là, pour le coup, qui se rapproche, je pense, des chanteurs. Au cinéma, on peut murmurer. Ça, c'est moins un problème. C'est même souvent recommandé. Vaut mieux pas trop gueuler au cinéma. Mais c'est vrai qu'il y a un travail. Ouais, après, moi, je sais, quand j'étais plus jeune, c'est marrant, j'ai revu il y a peu de temps un bout de film dans lequel je devais avoir 20 piges. Et alors, je parlais vraiment comme ça, quoi. C'était vraiment n'importe quoi, le bébé. Donc, tout à coup, je me dis, ouais, j'ai vachement mûri. Je parle vraiment avec une voix qui vient, tu vois, de l'intérieur. Comme dirait Bernard. Les dialogues qui sont mal gaulés. Enfin, moi, je les entends. J'entends que ça sonne pas. et autant à l'écriture qu'à la lecture. Audiard, Frédéric Dard, enfin bon, après moi c'est un peu ma culture, mais c'est vrai que ces gens-là ont une langue, on l'entend quand on la lit, on la comprend, et si elle est pas bien dite ou si elle est mal tournée, ça marche pas. Enfin, il y a un truc. Encore une fois, c'est lié à la musique, je trouve. C'est sûr que quand on lit une scène à voix haute, c'est d'ailleurs pour ça que les lectures sont hyper importantes quand on prépare un film, ou qu'on soit acteur ou réalisateur, je pense, c'est d'entendre les mots dans les bouches des autres, quoi. Très souvent, un rôle est associé à une musique pour moi. Il m'accompagne, vraiment, ça fait un peu truc d'actrice de dire ça et tout ça, mais c'est sincère. Et d'ailleurs, je me souviens sur un film de Christophe Honoré qui s'appelait Ma mère, qui était pas évident, qui était adapté de Georges Bataille et qui était un film un peu intense, on va dire. Je me souviens que j'ai écouté que du Stan Getz, je sais pas pourquoi. On tournait aux Canaries avec Isabelle Huppert et Louis Garrel. Et moi, j'avais du Stan Getz et c'est la musique qui a accompagné ce personnage pour moi. Je saurais pas expliquer pourquoi. Je sais qu'au théâtre, quand j'ai joué La Rivière il y a 2-3 ans, c'était Billie Holiday tout le temps, du matin au soir. Voilà, et je sais pas très bien l'expliquer, mais tout à coup, il y a une musique qui fait tilt et qui... Putain, c'est ça la musique de ce personnage. C'est comme quand on fait des mood boards, quand on doit essayer d'expliquer à une équipe l'intention qu'on a sur un style, sur des couleurs, sur une humeur. Bah, pour moi, la musique fait partie de ce mood board, quoi. Elle est intégrée à tout ce que j'ai envie de voir en termes d'image. Pour moi, le son, c'est évidemment aussi important.
Le musée des sons. Le musée des sons.
Allô ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je te réveille ?
Le son qui me réveille. Je dois avouer, ça peut être un peu agaçant, je sais, pour nos amis célibataires, mais moi j'ai la chance d'avoir trouvé une espèce de perle rare un peu anglaise, très anglaise même, avec qui je partage ma vie depuis 10 ans, qui donc me réveille d'un « good morning, mon amour ». Oui, je sais, ça peut agacer, mais c'est vrai, je n'ai plus de réveil pourri. Avant, c'était Nova qui me réveillait quand j'étais célibataire, mais maintenant c'est « good morning, mon amour ». Le meilleur son sur le chemin du travail. Alors ça dépend du travail. Ça dépend si le travail, c'est d'aller rencontrer un producteur qu'il va falloir convaincre de me donner des sous. Alors là, on va y aller sur un bon funk, un bon James Brown, un bon... Tu vois, un truc un peu comme ça. Si c'est aller au travail et que le travail, c'est d'aller jouer une scène de rupture amoureuse... Je vais plutôt me pencher pour un petit Neil Young ou un petit truc un peu folklore, un peu ou alors un truc carrément genre un Patrick Watson ou bien un bon vieux Bob Dylan, tu vois, un truc comme ça. Et si le travail, c'est comme ça m'est arrivé là, d'aller sur mon tournage de court-métrage à 7h du matin au trou du cul des abbesses avec un sac à dos où je tiens tout mon décor dans mon sac à dos. Là, je vais écouter du Springsteen parce qu'il faut avoir la foi. Alors, le son d'une bonne idée, c'est un peu comme ces notifications à la con sur les téléphones, là, tu vois, c'est un peu cling. Genre, ah, putain, mais quelle bonne idée. Alors, le son d'une mauvaise idée, par contre, ça ressemblerait à un pet de vache ou à un truc genre...
Moteur. Ça tourne, le moteur. Pas le bruit, ça tourne, oui.
Ça tourne.
Ça tourne ici, c'est ça. J'attends. Bon.
Action.
Le son d'un plateau de cinéma, comme on aime celui-là. C'est tout le monde qui s'affaire un peu dans tous les sens. Et moi, je regrette un peu parce qu'aujourd'hui, ils ont tous des oreillettes. Les machinaux, les électros, surtout les électros, ils ont des oreillettes. Donc c'est génial parce qu'ils se parlent entre eux, ils disent non, un peu plus à gauche, un peu plus à droite. Donc ils sont tout discrets. Avant, on les entendait hurler en plein milieu du plateau, dire putain, mais bouge-moi le 8 à 10 000, mets-moi sur je sais pas quoi. Enfin bon. Et là, maintenant, ils sont tout discrets. Donc c'est beaucoup plus silencieux, finalement. Et puis d'ailleurs, quand ça l'est pas, il y a toujours un assistant qui est là pour dire silence.
Mais où est-ce qu'il est? Mais où est-ce qu'il est, ce con de Perchman?
C'est un peu le fourmillement de tous ces gens qui travaillent en même temps et qui s'affairent. Il y a une espèce d'excitation, de concentration. Ça, je parle des bons tournages. Hein. Les tournages où ça gueule, où ça s'engueule, où ça se passe pas bien. Mais je ne m'en rappelle pas de cela. Moi, je me rappelle que des bonnes choses. Le son d'une grosse erreur... c'est un son d'aspirine dans un verre d'eau, non? Un son de mon enfance qui n'existe plus, alors oui. Il y en a un, alors ça ne parlera pas au moins de 20 ans. Hein. Le téléphone à cadran qui fait brrr, brrr. La voix médiatique qui a bercé mon enfance.
Alors ça, c'est un peu compliqué parce que, comment dire, ayant une famille dans les médias, c'est évidemment mon grand-père, Georges Decaune, ma grand-mère, Jacqueline Joubert, mon père Antoine Decaune, sont des voix médiatiques qui ont bercé mon enfance. Mais à côté de ça, moi j'adorais les Shadocks, j'adorais Récréa 2 en fait, j'adorais Récréa 2, qui avait été créé par ma grand-mère, donc forcément j'étais un peu plus... Première loge, mais le générique de Récréa 2. Ouais, Récréa 2, c'était mon kiff. Et puis aussi, le générique de Cinéma Cinéma, qui était l'émission de Claude Ventura. Claude Ventura ayant été l'amoureux de ma maman pendant plus de 10 ans, j'ai un peu grandi avec lui. Et le générique de Cinéma Cinéma, qui avait été fait par Guy Pellart et ma chère mère, c'était comme ouvrir les coulisses de ce monde qui me fascinait, du 7e art.
Pierre Lazareff.
Le pire générique d'émission.
Pierre Desgroupes. Pierre Dumayet.
C'est 5 colonnes à la une.
Et Igor Barrère vous propose...
Je sais pas pourquoi, ça a l'angoisse.
5 colonnes à la une.
C'était pas forcément chez moi, c'était chez les grands-parents. Mais c'est un truc, c'était synonyme d'angoisse pour moi. C'est, ouh putain, ça va s'engueuler, ça va pas être content, ça va râler, ça va... Je sais pas, il y avait un truc, ça m'angoissait un peu.
Non, mais je vois bien que ça vous gêne. C'est à cause de la voix, là. La voix, ça trompe souvent.
La meilleure voix de média. Alors c'est marrant, je me suis posé la question et je me suis souvenue de Pascal Clark.
Votre première campagne à une présidentielle touche à sa fin. Est-ce que vous pensez qu'elle est réussie, votre campagne ?
Sa voix m'apaisait, sa voix avait un effet assez calmant sur moi. Le son des femmes. Je vous aime ! Alors, le son des femmes, ce serait un bon titre, ça, le son des femmes. Aujourd'hui, elles sont un peu en colère, un peu... sur le devant de la scène, elles se font entendre, donc elles font effectivement un peu de bruit. Mais le son des femmes aujourd'hui, c'est des femmes qui ont besoin de se faire entendre, je crois, ouais. Le son d'un scandale, bah quel bel enchaînement, le son d'un scandale. C'est comme un moteur qui vrombit et puis qui va finir par décoller, quoi. Et parfois pour le meilleur, parfois pour le pire. Le son d'un cinéma, d'une salle de cinéma ? Ou d'un cinéma ? Le son d'un cinéma ? Bah alors moi, je suis une grande fan des comédies musicales de l'âge d'or d'Hollywood. Donc j'aime ce son qui est un peu pas propre, mais qui a quelque chose de désuet, forcément. Bon, je suis un petit peu nostalgique de ces années-là et de ce cinéma-là. En fait, quand j'ai un coup de blues, il faut que je regarde une comédie musicale et puis ça va mieux, quoi. Voilà, j'adore les films de Bob Fosse. J'adore Sweet Charity en particulier, qui est un de mes films cultes avec la géniale Shirley MacLaine. C'est un son haut en couleur, en fait. Il y avait quelque chose de très riche et en même temps brouillon et un petit peu avec du grain, quoi. Quelque chose, je sais pas, j'aime bien ce son-là. Après, le son d'un cinéma, d'une salle de cinéma, j'adore le son d'une salle de cinéma. Surtout maintenant que je peux le comparer avec l'Angleterre, qui a rien à voir avec nous, parce qu'eux, ils rentrent carrément avec leur verre de pif au cinéma ou leur bière. Ça change complètement la donne, hein. C'est pas du tout le même truc. Et aux États-Unis, ça téléphone pendant les séances, ça bouffe du pop-corn, ça commente hyper fort. Donc nous, je nous trouve finalement, les Français, assez calmes et assez reposants au cinéma, même s'il y a toujours un con qui a laissé son téléphone allumé ou quoi. Mais globalement, je trouve que les Français, on est plutôt attentifs et qu'il y a toujours ce petit moment juste au moment où la lumière s'éteint, où on s'installe confortablement dans son fauteuil. C'est toujours un petit moment un peu genre, on est prêt à partir dans une autre dimension. J'aime bien ça. Un son qui a marqué ma vie et que je n'ai pas cité. Si, bah alors je vais vous raconter. Un son qui a marqué ma vie. Je devais avoir 15 ans et j'ai réussi, je ne sais pas comment, à me faufiler à l'entrée des bains-douches, où Prince faisait un after-show. Et je me suis retrouvée à peu près à un mètre de Prince, qui était assis sur le rebord du truc là près de la piscine, qui jouait du blues, enfin de la guitare, qui, tu vois, qui s'amusait comme ça tranquillement. Ouais, ça a été un choc, j'ai un électrochoc. Et ça, ça a été une méga claque. Ouais. C'est un son que j'oublierai jamais et c'est un son qui m'a fait instantanément devenir fan à mort jusqu'à aujourd'hui. Je le suis toujours. Et une autre compréhension de la musique, une autre approche de la guitare, de mon écoute de la guitare. En fait, c'est grâce à Prince que j'ai fait mon éducation sur toute la musique noire, soul des années 50 jusqu'à lui. Et c'est un son particulièrement que j'oublierai jamais. Ouais. Le son de 2019. Le son de 2019, ce sera un petit mix entre des femmes en colère, des gilets jaunes, Greta Thunberg, la planète qui part en sucette et les gens qui se mobilisent. Il y a une grosse colère quand même sur 2019, globalement. C'est une année où c'est beaucoup descendu dans la rue et j'ai pas l'impression que ça va s'arrêter en 2020. Le son de ma fille, c'est Yes, le sang. Je lui dis, comment ça, le sang? C'est bon, maman, t'as pas compris, le sang, c'est toi. Je lui dis, mais tu m'appelles pas le sang? Déjà, c'est toi, tu es le sang de mon sang, la chair de ma chair, mais moi, tu m'appelles maman, pas le sang. Donc voilà, en ce moment, ça peut s'embrouiller un peu sur des termes de trucs un peu chelous que je comprends pas toujours. Et c'est là où je me prends un putain de coup de vieux. Un son qui me fait rire, alors il y en a un que j'adore, mais qui me fait rire à chaque fois. C'est le fameux enregistrement d'Elvis Presley qui chante « Are you lonesome tonight ?». Il y a une des choristes qui part totalement en sucette derrière lui, mais complètement, qui se lâche, mais totale, et qui ne se rend pas compte qu'elle se... Enfin, ou alors qui s'éclate vraiment, mais qui doit fermer les yeux pendant qu'elle chante, je ne sais pas. Et donc Elvis a un fou rire sur scène. Et malgré tout, c'est quand même une chanson en plus hyper crooner, genre Are you lonesome tonight, machin. Et il part totalement en sucette, il rigole comme une baleine pendant toute la chanson. Et il a un fou rire super communicatif.
Ça commence par les parents, la famille, et ensuite c'est le drapeau, la patrie.
Le son de l'émission emblématique de mes parents, le ciné-club. Ça, c'était ma passion, parce qu'en général, on enregistrait le film, parce que moi, il fallait que j'aille me coucher dimanche soir, sauf que j'arrivais toujours un peu à gratter quelques minutes, et le son de l'annonce. Mais moi, quand ça arrivait, j'avais un début d'érection, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Elles sont des Césars, moi, le son, évidemment, c'est quand je l'ai eu, quand je l'ai pas eu, je m'en souviens pas. La fille qui se rappelle. Mémoire sélective.
Le César est attribué à Emma de Côte.
Non, mais j'étais un peu toute petite, quoi. J'avais 22 ans. Vraiment, sincèrement, je m'attendais pas à la voir, et encore moins avec mon père qui présentait la cérémonie. Et quand ils ont dit mon nom, j'ai senti une espèce de boule de feu parcourir mes joues, mes intestins, tout. Mes jambes ont fait un peu de la gelée, et j'ai quand même réussi à me lever, et je me suis dirigée sur la scène, et mon père, évidemment, est venu vers moi, ému aussi. Et moi, j'avais qu'une trouille. Je disais, oh, mais merde, les gens derrière leur télé, ils vont se dire, ah, mais c'est parce que c'est sa fille, hein, c'est pour ça qu'elle l'a eue. Donc, le premier truc que j'ai dit, c'est...
T'y es pour rien, rassure-moi. Ah. T'y es pour rien.
Non.
Et puis après, j'ai dit, le film se joue encore à l'épée de bois, puisque personne n'avait vu le film. Donc, je me disais, on peut toujours faire une petite promo. Voilà, je m'en suis beaucoup voulu parce que j'ai pas remercié Sylvie Vered qui avait fait ce film qui s'appelait Un frère. J'ai pas remercié mes partenaires, j'ai remercié personne, mais j'avais une telle montée de larmes qui allait arriver. Je me suis dit non, tu vas pas chialer, non, tu vas pas chialer. Donc j'ai fait très court et je suis partie très vite. Le son de Cannes, c'est différent. Le son de Cannes, c'est effectivement le tapis rouge, ce moment qui doit durer, allez, en vrai 10 secondes, mais qui dure une heure et demie quand on y est, parce que tout à coup, c'est très très bon pour l'ego d'avoir des photographes qui crient votre prénom. Emma, Emma, par là. Tu fais, oh putain, mais tout le monde me connaît en fait. Et là, tu rentres ton ventre, tu croises les jambes parce que tu penses à la photo pourrie qui va sortir, où évidemment, ta robe est trop courte, ton nichon sort, ton talon est mal mis, enfin voilà, donc t'es pas non plus hyper détendu. Mais c'était ça, mon dernier souvenir du son de Cannes, et pas de Cône. le son à envoyer dans l'espace pour leur présenter l'humanité, j'ai pensé à Gershwin, parce que je me dis quitte à leur envoyer un truc, autant que ce soit vraiment super beau. Donc n'importe quoi de Gershwin, ça leur fera les pieds. Le son qui me définit le mieux, je sais pas, pow, plop, whizz. Je pense que c'est le son qui finit le podcast en beauté.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.